Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, une spéciale lutte environnementale et sociale en Bretagne comme chaque dernier vendredi du mois. Au sommaire, l'info du jour, le passage de la flamme olympique à Rennes qui fait réagir, une interview avec Audrey Guillet, l'autrice rennaise d'Emprisonnée, 10 femmes, 10 pays, 10 histoires, les sujets de trois radios partenaires, toutes membres de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. On va parler galère pour se loger, d'abeilles sur une île et puis des au cœur de nos vies. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis une recommandation, un fest-noz mais solidaire. Bienvenue dans l'arène. Et vous le savez, l'émission d'information locale, elle débute toujours avec l'info du jour, une parmi d'autres qu'on sélectionne dans la presse locale. Ambre, bonjour.
Bonjour Lucie.
On le rappelle, tu es étudiante à la SCOL et tu es en stage ici à Canal B jusqu'à ce vendredi soir. On t'écoute donc pour l'info du jour.
Alors demain, samedi 1er juin, la métropole rennaise accueillera le passage de la flamme olympique, un parcours en 8 étapes dans les villes brétiliennes. Ce parcours, il commencera à Cesson-Sévigné et il s'étendra sur 8 km pour se terminer sur l'esplanade de Charles de Gaulle à Rennes. Et à cette occasion, il y aura des animations un peu partout dans la ville. Alors c'est sympa, oui, mais il n'y a pas que des points positifs. Déjà, niveau mobilité, des routes barrées, des lignes de bus déviées et des parkings inaccessibles. Et sachez aussi que la station de métro Charles de Gaulle sera fermée demain après-midi. Bref, jusqu'à dimanche, la circulation, elle s'annonce difficile à Rennes et ça commence dès aujourd'hui. Une autre ombre à ce tableau olympique, ce sont les grands oubliés de la fête et c'est le Secours catholique qui nous alerte là-dessus. Si les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 se veulent engagés sur tout un tas de points, comme l'environnement, l'emploi ou encore l'inclusivité, eh bien il semble que la promesse de jeux solidaires, elle est loin d'être tenue. Entre la multiplication des expulsions de lieux de vie informels, l'éloignement des précaires et le déplacement des points de distribution alimentaire, c'est une espèce d'opération place nette qui est en marche. Côté emploi, ce n'est pas mieux, des jobs précaires, du boulot 7 jours sur 7 et du bénévolat jusqu'à 48 heures par semaine. Les entorses au code du travail, elles sont nombreuses et le pire, c'est qu'elles sont tout à fait légales. Grâce à l'article 25 de la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cette loi promulguée l'année dernière, il existe une dérogation qui permet au patron du commerce de déroger à la règle du repos dominical dans les communes concernées par la compétition. Du coup, on se demande bien ce qu'il restera de l'héritage social des JO une fois la flamme éteinte. Et pour terminer quand même cette info du jour sur une note positive, on peut évoquer deux choses. Déjà, il y a l'Autre Flamme, une initiative portée par 17 missions locales bretonnes. Pendant 3 semaines, cette Autre Flamme, inspirée de la flamme olympique, a parcouru la Bretagne, portée par des jeunes accompagnés par les missions locales. Et pour donner quelques chiffres, on parle de 16 étapes sur presque 900 km. Ce relais, il s'est terminé aujourd'hui à la capitainerie des Prairies Saint-Martin, à Rennes. Enfin, demain, le collectif Nous Toutes 35 organise un contre-événement militant. Ça s'appelle les Olympiades de la Solidarité et ça se passe à 17h devant la Maison des Femmes. Au programme, un 100 mètres cuillère, un lancer de baudruche, du waterpong et j'en passe. Cet événement, il s'inscrit dans une lutte pour plus de moyens dans l'hébergement d'urgence. Alors si vous cherchez une bonne alternative, vous savez maintenant quoi faire.
Et si ça se passe à la Maison des Femmes, c'est parce que Nous Toutes, on le redit, pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, est un collectif ouvertement féministe. Merci Ambre pour cette info. On passe maintenant à l'interview du jour. Audrey Guillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste rennaise et puis l'autrice de cet ouvrage dont on parle aujourd'hui, Emprisonnée, 10 femmes, 10 pays, 10 histoires. C'est paru le 17 mai aux éditions Libertalia. Plus de 200 pages qui nous emmènent à la rencontre de Mary en Indonésie, Capucine en France, Enam en Syrie ou encore Kaori au Japon. Le point de départ à la rédaction de cet ouvrage, c'est que vous aviez en fait déjà un pied, en l'occurrence de journaliste, en prison ici sur le territoire rennais.
C'est ça. Pendant 10 ans, j'ai animé, co-animé la rédaction de Citadelle. C'était un magazine qu'on a fait à la prison des femmes de Rennes. L'idée, c'était de proposer à des femmes détenues en longue peine de rédiger des articles, de faire des interviews. Donc moi, pendant 10 ans, tous les vendredis après-midi, j'étais au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Et bah oui, c'était mon premier pas dans le milieu carcéral.
Aujourd'hui, 85 000 personnes sont incarcérées en France et on découvre que finalement une toute petite part de ces prisonniers sont des femmes, 3,59%. À quel moment vous vous dites que vous allez lancer ce projet ambitieux là dont on va parler et aller plus loin que Rennes ?
En fait, c'est vraiment parti de la rédaction de Citadelle. Les rédactrices, elles me racontaient souvent des histoires qu'elles avaient entendues de détenus ailleurs dans le monde ou elles-mêmes venaient d'autres pays. Et puis c'est vrai qu'on s'est interrogé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'elles vivent les femmes ailleurs dans le monde en prison ? Est-ce qu'elles vivent la même chose qu'en France ?
Un projet ambitieux, je le disais, parce qu'il n'existe pas d'organisation internationale qui aurait pu vous aider à contacter des femmes en prison ailleurs dans le monde. Vous avez donc lancé beaucoup de pistes en passant par différentes associations, parce qu'il y en a quand même un petit peu partout dans le monde.
Ouais, ça a été vraiment un travail de fourmi pendant 3 ans pour récolter 10 témoignages de femmes dans 10 pays du monde. J'ai lancé 40 pistes. J'étais un peu partie naïve, la fleur au fusil, en me disant ça va être facile d'accéder à ces femmes. Mais en fait, c'était très compliqué. Donc je suis passée, il y a des associations, des avocates, des militants, des militantes qui m'ont aidée. Aussi, il y a eu la question des traductions ensuite qu'il fallait gérer. Et ça a été une longue chaîne d'aide que j'ai reçu pour arriver et pouvoir porter la voix de ces femmes qu'on n'entend jamais.
Il y a aussi des échanges qui ont débuté puis qui finalement n'ont pas abouti avec des parcours de vie qu'on imagine aussi parfois fragiles et puis complexes. Alors emprisonné, ce sont plus de 200 pages pour découvrir des récits qui sont vraiment sous forme de témoignages de 10 femmes donc incarcérées, qui ont été incarcérées ou qui le sont encore au moment où elles parlent en France, au Brésil, au Mali, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Votre objectif, c'était quand même d'avoir des participantes sur les 5 continents.
Exactement, c'était ça. C'était de pouvoir parler de femmes partout dans le monde et avec des histoires, des affaires, des conditions d'emprisonnement différentes.
Je voulais peut-être vous demander, avant de rentrer dans le vif du sujet, de quelle façon est-ce que vous avez réussi à les faire parler ? On imagine avec la contrainte d'être à distance. Il y a dès le début des témoignages souvent des descriptions physiques. C'est une façon d'humaniser, de dire je fais 1m60, j'ai des longs cheveux, je suis maman, etc. Comment est-ce que vous les avez guidées finalement pour qu'elles se racontent ?
En fait, à chaque fois, pour obtenir un récit complet, j'ai eu 4 à 5 échanges avec elles. Par tous les moyens, ça a été des lettres manuscrites, des emails, du téléphone. Parfois, des gens sont rentrés en prison dans certains pays pour poser des questions. Mais c'est vrai qu'il a fallu du temps pour établir la confiance. Pour beaucoup, je ne les ai pas vues, mais je leur ai demandé à chacune de se décrire. Et puis, j'ai été aussi progressivement dans les questions que je leur posais. C'est-à-dire d'abord des choses plus légères pour rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Mais pour la plupart, ça a pris 6 mois à 1 an d'échange.
Et quand on sait la diversité des conditions de détention à travers le monde, avec certains pays qui sont autoritaires, on va le dire comme ça, certains régimes qui sont autoritaires, est-ce que parfois vous avez pu être freiné par les administrations pénitentiaires ?
Oui, il y a des administrations qui ont refusé, il y a aussi des échanges qui ont eu lieu alors que l'administration n'est pas du tout au courant. Donc la moitié des femmes qui témoignent le font de manière anonyme pour les protéger.
Le premier chapitre, il nous emmène à la rencontre de Mary Utami en Indonésie. Elle risque tout simplement la peine de mort pour avoir importé illégalement de la drogue dans le pays. C'est un des pays où la répression est la plus dure sur ce sujet du trafic de stupéfiants. Et c'est là qu'on dit qu'à chaque fois, il y a le témoignage, mais ça permet aussi d'ouvrir sur plein de sujets différents. Là, en l'occurrence, la peine de mort qui est encore pratiquée régulièrement dans de nombreux pays à travers le monde.
Ouais, c'est ça. Les récits, ils sont forts en émotion et c'est des trajectoires personnelles, mais à chaque fois, ça nous dit quelque chose des conditions de vie des femmes et de leur incarcération. Et en l'occurrence, l'histoire de Mary, elle montre plusieurs choses. Comme vous le disiez, que la peine de mort, elle existe encore aujourd'hui dans le monde, dans plusieurs pays. Et elle montre aussi un truc, moi, qui m'a frappée, et j'étais pas vraiment au courant, c'est que la proportion des femmes en prison, elle gonfle. Vous le disiez tout à l'heure, les femmes en prison, c'est une minorité. À l'échelle du monde, elles sont 7% de la population carcérale. Mais depuis 2000, la proportion d'hommes, elle monte de 20% et celle des femmes, elle monte de 60%. Et notamment, c'est à cause des lois anti-drogue qui existent dans des pays comme l'Indonésie. Comme les gouvernements, les polices n'arrivent pas à arrêter les hommes à la tête des trafics, ils arrêtent les femmes mules.
Les petites mains, quoi.
Les petites mains en bas de trafic. Et du coup, ça fait que les femmes en prison, elles deviennent de plus en plus nombreuses.
Autre découverte stupéfiante, bon, je fais un jeu de mots en lien avec le trafic de drogue, c'est qu'une personne sur trois qui est emprisonnée, finalement, se retrouve entre les barreaux sans procès. Donc ça, c'est un chiffre à l'échelle mondiale, ce qui est assez fou. Et il y a donc ce thème, finalement, de l'injustice au sein du système judiciaire qui est exploré avec Kadiatou au Mali, qui a été emprisonné mineur, hein, c'est ça, pour un vol ?
Oui, alors on parle d'un vol de 4 pagnes et de moins de 300 euros. Elle a été emprisonnée 2 ans, mineure, dans une prison où il n'y a pas de quartier mineur. Oui, quand vous parlez des incarcérations sans procès, elles sont encore nombreuses. Il y a plein de gens qui sont en préventive en prison, c'est-à-dire qu'ils attendent leur procès, mais certaines personnes attendent le procès 5 ans. Et comme le témoignage des Enaam en Syrie le montre, il y a aussi... des gouvernements dictatoriaux, totalitaires, qui se servent de l'emprisonnement comme d'une arme pendant les conflits. Et alors là, pas de procès, tout est arbitraire.
Enaam, qui a donc été victime d'un emprisonnement politique avant finalement de s'exiler vers la France. Et ce qui lui est reproché, le terme, c'est, je ne me rappelle plus le terme exact...
Financement du terrorisme. Parce qu'elle voulait quoi ? Elle voulait juste quitter... son pays, quitter son quartier qui commençait à être bombardé, et elle voulait que son mari échappe à l'enrôlement militaire, et elle a juste changé son argent pour pouvoir fuir, et elle a été interceptée sur la route de l'aéroport, et là le régime ne pouvait pas supporter que les citoyens s'en aillent, et elle a été enfermée de manière complètement arbitraire.
Avec des conditions de détention violentes, on peut lire le détail donc dans cet ouvrage. Emprisonnée, on peut citer aussi le cas de Shenda, qui a été emprisonnée sans preuve, cette fois au Cambodge, en lien avec un trafic de stupéfiants dans le restaurant où elle travaillait. Et puis, il y a plusieurs Françaises en fait, qu'on rencontre dans l'ouvrage. Capucine, qui purge une peine de 20 ans pour complicité de tentative d'assassinat sur son conjoint. Elisa, une Française, mais qui est installée au Royaume-Uni, d'ailleurs menacée d'expulsion après un départ de feu en fait en lien avec des troubles psychiatriques. Autre sujet évoqué parce qu'il revient régulièrement, et peut-être encore plus avec le Covid qui est arrivé, qui est aussi évoqué dans le livre.
Peut-être avec le Covid, mais je dirais surtout parce qu'il y a un élément déterminant qui est commun à toutes ces femmes, c'est qu'elles ont toutes subi des violences avant d'entrer en prison. Et ça, moi, je pensais pas que c'était si répandu. C'est-à-dire que elle développe aussi des troubles psy et des addictions en lien avec les violences qu'elles ont subies. Derrière une femme en prison, il y a souvent, dans son enfance, un homme violent, un père violent. Et ça montre quoi ? Ça montre que la société incarcère des femmes qu'elle n'a pas pu protéger avant. C'est assez terrifiant.
Et on comprend que l'arrivée en prison, elle fait suite à des fragilités en fait qui se multiplient. Il y a les violences subies, violences physiques, violences économiques, et puis aussi les discriminations raciales que vous évoquez avec le cas de
Barbara au Brésil.
Au Brésil, ouais, c'est ça.
Et c'est ça qui est frappant. On se dit, la prison, dans notre esprit, c'est là où vont les gens violents et les gens qui outrepassent la loi. Et en fait, quand on commence à regarder les parcours de ces femmes, on voit que non. La prison, elle stigmatise surtout la pauvreté et la différence, les minorités. Il y a plein de gens qui ont des conduites illégales et qui ne sont pas du tout en prison. On pense à des crimes financiers de haut vol ou à toutes les violences intrafamiliales. Non. En fait, la prison, elle incarcère surtout les pauvres. Et aujourd'hui, dans le monde, les pauvres, c'est qui ? Ce sont les femmes. Parce qu'elles ont moins accès au travail rémunéré. Et qu'avec les bouleversements familiaux, les séparations de plus en plus fréquentes, elles sont souvent dans des conditions qui les poussent à outrepasser la loi pour trouver de quoi manger, en fait, quoi.
Vous le dites, vous avez commencé ce projet-là donc avec un livre qui s'appelle « Emprisonné », avec cette idée qui était que finalement la casse-prison, mais on la partage tous, la casse-prison peut permettre un nouveau départ pour les citoyens qui ont dévié, on va le dire comme ça. Dans le chapitre 5, on rencontre Ina, une néo-zélandaise, qui vous parle d'un programme de réinsertion qui s'appelle « RO ». Certaines ont réussi justement à tourner la page, d'autres rechute, il n'y a pas de parcours clé, mais peut-être qu'il en manque justement de travail sur la réinsertion et sur l'après.
En fait, je pense que déjà, il faut comprendre que la réinsertion, elle est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes en prison. Pourquoi ? Parce que les prisons pour femmes, elles sont moins nombreuses. Donc les femmes sont plus souvent éloignées de leur famille. Elles ont moins de parloirs, elles ont moins de visites. Un homme en prison, il reçoit le soutien de toutes les femmes de sa famille. Une femme en prison, c'est pas du tout le cas. Et aussi, encore une fois, un homme en prison, pour certaines affaires, il peut bénéficier d'un côté un peu glamour de la case prison. Pour les femmes, ça joue pas du tout comme ça. Elles vivent tout ça comme une honte d'avoir été en prison parce qu'elles sortent de l'image traditionnelle qu'on attend des femmes. Donc ça veut dire qu'elles, quand elles sortent de prison, la réinsertion est beaucoup plus difficile. Et bah oui, comme vous le disiez, il faut des programmes pour les aider à se réinsérer. En France, y a des services d'insertion qui travaillent avec les moyens qu'ils ont et c'est pas toujours facile. À l'échelle du monde, c'est vraiment une autre histoire. Et là où on va proposer à des hommes des formations, les femmes, on va leur proposer des nurseries pour qu'elles gardent leurs enfants. Ok, mais finalement, ça leur donne pas de quoi gagner l'argent qui leur manquait et qui a fait qu'elles se sont retrouvées en prison.
Alors, votre travail, il a la particularité de s'inscrire dans une période d'annonce politique, même s'il y en a régulièrement sur le sujet, mais donc d'un renforcement de la politique carcérale. 15 000 places en prison en France, ça c'est annoncé d'ici 2027 par le gouvernement. Aujourd'hui, là, on est dans une émission qui est spéciale lutte environnementale et sociale. Vous êtes d'accord pour dire que votre travail, il s'inscrit dans un engagement particulier sur la question ?
Bah oui, dans un engagement particulier sur la réflexion qu'on a à mener sur le système carcéral. On sait dans tous les pays que plus on construit de places de prison, plus on incarcère. Qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que société ? Est-ce qu'on veut encore jouer sur cette corde que la prison, ça doit être une vengeance, une humiliation ? Est-ce qu'on veut envoyer en prison des gens qui ont déjà eu des parcours cassés ? Les humilier parce que l'humiliation, la dévalorisation, la déshumanisation, elle est monnaie courante dans les prisons. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut au contraire donner des outils à des personnes pour qu'elles se reconstruisent, souvent pour qu'elles se construisent en réalité, et pour qu'on puisse compter sur elles et eux après ? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Pour moi, la prison, c'est souvent l'échec de toutes les politiques publiques précédentes. C'est pas rassurant. On pourrait se rassurer en se disant « oui, les gens qui fautent sont en prison ». C'est pas exactement ça qui se passe. Et il faut qu'on réfléchisse à ça.
Cet ouvrage, Emprisonné, c'est donc un livre de plus de 200 pages que les auditeurs pourront aller découvrir. Il est sorti aux éditions Libertalia au mois de mai. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que dans le prolongement, vous avez imaginé une sorte d'adaptation radiophonique de ces témoignages, lus en plus par des voix assez célèbres, on va le dire comme ça.
Oui, il y a Sidonie Bonnec, Corinne Massiero, Grace Lee et Marion Séclin qui portent la voix de quatre détenus dans un podcast qui s'appelle aussi Emprisonné et qui a été produit par Ouest France, qu'on peut retrouver sur le mur des podcasts de Ouest France et sur toutes les plateformes de diffusion. Et je trouve que c'est un moyen chouette parce que oui, c'est pas tout le temps facile d'aller voir du côté de ces histoires des femmes en prison. C'est pas tout le temps facile d'aller mettre la lumière sur ce monde qu'on connaît pas, la prison. Là, voilà, ces femmes, elles viennent à nos oreilles et elles nous racontent nos histoires. C'est peut-être un moyen simple d'aller écouter ce qu'elles disent.
Et pour aller plus loin, on pourra aussi vous rencontrer le 6 juin prochain à la librairie La Nuit des Temps, installée ici à Rennes, avec une séance de dédicace suivie d'une rencontre à partir de 18h. Le détail est évidemment à retrouver en ligne sur le site et la page Facebook de La Nuit des Temps. Audrey Guillet, merci beaucoup.
Merci à vous pour votre écoute.
Et je vous représente, vous êtes donc journaliste rennaise et l'autrice de cet ouvrage qu'on vient de présenter, Emprisonné, 10 femmes, 10 pays, 10 histoires. C'est paru au mois de mai aux éditions Libertalia. The day switch, double die, double die, double die, the day switch, double die. He was DOA, 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 he was DOA. Take him in circles from noon until 4. The Day Squids Gerbil Died, un titre des Lunatics, groupe féminin de punk US. Et c'était le choix musical d'Audrey Guillet, l'invitée qu'on vient de recevoir en studio pour parler de son livre sur des femmes emprisonnées. Le morceau qu'elle a choisi, il est à retrouver sur un album sorti en 97, Pretty Ugly, c'est son nom. Vous venez d'en entendre un extrait dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui se poursuit maintenant avec les sujets de trois radios partenaires pour relayer les luttes environnementales et sociales dans la région Bretagne. Trois radios qui ont en commun d'être toutes membres de la CORLAB, cette coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Alors le premier sujet, il est signé Simon Leclerc, animateur à Radio Laser du côté de Guichen, au sud de Rennes. Le 13 mai, il recevait Laure Prima de l'association Accueillir au Pays à Bain-de-Bretagne et également Michel Motel, référente logement dans une association qui s'appelle 100 pour un toit en Vallon de Haute-Bretagne. Extrait.
Accueillir au Pays est une association sur Bain-de-Bretagne qui accompagne aujourd'hui 7 familles. À l'origine, l'association accompagnait des personnes exilées. On a décidé finalement d'accompagner toute personne en difficulté aujourd'hui. Donc on va changer nos statuts parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème beaucoup plus large et qu'il est important de mettre nos efforts en commun.
Michel, vous avez sûrement déjà été confronté à ces problématiques face à des logements qui pourraient ne pas être loués via 100 pour un toit.
Alors, nous, dans le même esprit qu'Accueillir au Pays, on s'est constitué en fait pour venir en aide à une famille, mais dans nos statuts, tout de suite, en fait, on a compris que l'enjeu, il n'est pas seulement pour les personnes exilées. Aujourd'hui, il est pour toute personne. On a des travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture. C'est pas anecdotique. On est régulièrement, nous, 100 pour un toit à Vallon de Bretagne, contactés sur ce sujet-là, sur le territoire. On pense que c'est un phénomène urbain, mais pas du tout, en fait, ça arrive dans nos campagnes. En fait, ce qui se confronte aujourd'hui, c'est plusieurs choses, et c'est quelque chose que je sentais arriver depuis, moi, 3 ans. J'avais déjà alerté mes collègues élus sur le sujet. C'est à la fois une augmentation du prix des logements en vente, ça, c'était la première chose, mais qui s'est confrontée, en fait, à une augmentation du coût des crédits, ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens qui auraient pu sortir de logements en location n'ont plus accès au crédit immobilier, donc ne peuvent plus libérer de logements en location, et du coup, ça sature le dispositif, avec en même temps un phénomène de paupérisation de la population. De nombreuses personnes sont éligibles aux logements sociaux, sauf qu'on n'a pas assez de logements sociaux, parce que ça aussi, ça a été un phénomène qui a été lié à la baisse des allocations, vous savez, la baisse des allocations logement décidée au début du premier mandat de La République En Marche, en fait, qui avait décidé en disant réduction d'allocations logement, c'était pas grand-chose, sauf qu'ils ont été ponctionnés aussi les réserves des bailleurs sociaux, qui ont du coup beaucoup moins de possibilités d'investir dans du logement social. Donc on a une pénurie de logement social par rapport à la population qui est éligible. En même temps, ceux qui sont aujourd'hui dans les locations privées ne peuvent pas sortir parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Eh bien, au bout du bout, ça sature. Et qui sont les plus exclus? Alors, 2 types de populations. Le travailleur pauvre, qui n'a pas de caution, qui n'a pas de famille. Moi, j'ai des situations, j'en ai déjà parlé. Je vais te laisser la parole alors après, mais pour expliquer le contexte un peu, pour voir dans quoi on s'inscrit là, c'est quand même la folie. J'ai des situations où une personne m'a contactée, elle gagne 50 000 euros par an, vous entendez bien? Et on lui demandait la caution de sa mère pour obtenir un logement. Donc vous imaginez les personnes qui sont au SMIC. Dans quelle situation vivent-ils? Et cette personne m'a contacté pour me dire « Mais Michel, comment font les gens ?» Je lui dis « Mais tu sais, les gens, en fait, ils font pas. Ils dorment dans leur voiture. » Donc moi, c'est vraiment un cri de colère. Vraiment, c'est un cri de colère. J'ai vu le film « L'abbé Pierre, une vie de combat » 3 fois. J'ai été touchée par cet homme avec ses cris de colère. Mais aujourd'hui, il serait là, mais il serait furieux de voir ce qui se passe. Voilà. Et en même temps, les pouvoirs publics, moi je parle de l'État, ne font pas assez. Franchement, ne font pas assez.
Laure, Michel Motel évoquait donc, nous a fait un tour d'horizon des difficultés rencontrées par les gens que 100 pour un toit peut accompagner. Accueillir au pays, comment vous aidez les gens à faire face à toutes ces problématiques? Parce qu'on a vu que le problème du logement, il prend des formes très très larges en fait.
Ouais, nous on croit beaucoup au réseau, à la mise en lien. Il y a des belles personnes partout sur notre territoire. Et l'avantage d'associations locales, c'est qu'on peut se connaître. Je vais vous citer quelques exemples. On accompagne 7 familles. On a eu des mairies accueillantes qui nous mettent à disposition des logements qu'elles ont. Donc ça, c'est déjà des belles preuves de d'humanité. On a eu une famille donc du Bénin qui a créé son réseau grâce à la religion, parce qu'ils sont très investis au niveau de l'Église. Et c'est comme ça qu'ils se sont créés un réseau d'amis. Et dans ces réseaux d'amis, une famille elle leur a fait confiance pour occuper un logement où le parent était âgé. Donc ça aussi, c'est une solution. On peut aussi trouver des solutions à travers d'autres difficultés. La vieillesse et le prendre soin des personnes est un vrai problème. Mais comment on peut très bien aussi lier le problème de logement et le problème d'accompagnement de nos familles. Et ça, je trouve que c'est un très bel exemple. Et voilà. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec Michel. On a le couteau sous la gorge pour toutes ces familles. Et je sais qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les 7 dont je vous parle. Et on aimerait faire encore plus. Et on se dit, voilà, potentiellement, nous, on a demain 3 familles qui se retrouvent à la rue. Parce que la solution de précarité qu'on leur a trouvée, elle n'est pas viable, elle n'est pas durable. On a une mairie, notamment, qui nous a mis à disposition un logement qui, en attendant d'être rénové, ça aussi, c'est une autre solution. Pourquoi un logement, on sait qu'il va être détruit, on sait qu'il va être, en effet, rénové, va être inoccupé pendant plusieurs mois, voire années? C'est ce qu'on a fait avec une famille. Là, ça fait 3 ans qu'il y a une famille. Enfin, je compte peut-être mal, mais au moins 3 ans que des familles sont hébergées dans ce type de logement. Donc, il y a des solutions, en fait. Faut simplement faciliter que la loi nous permette aussi cette facilitation. On a tous dans notre entourage des familles qui s'entredéchirent pour des héritages et des logements qui restent vacants très longtemps. Donc, on avait déjà répertorié que sur Bain-de-Bretagne, il y a au moins 30 à 60 logements vacants. Pour une petite commune comme Bain-de-Bretagne, c'est affolant. On a déjà été aussi... on a fait un article dans Ouest France là-dessus. On a alpagué on a interpellé plutôt la mairie de Bain-de-Bretagne pour dire pourquoi il y a des logements vides sur la commune que vous utilisez, qui sont à la mairie, dans lequel on pourrait mettre une famille, que vous souhaitez qu'il y ait du stockage. Est-ce que le stockage, on ne peut pas le réorganiser?
Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on vous répond?
On nous répond que le logement est insalubre. On l'a visité, le logement n'est pas insalubre.
Merci à Simon de Radio Laser pour ce relais d'interview. On quitte l'Ille-et-Vilaine et on prend la direction du Finistère, où est installée la radio Transistor, dans la commune du Faou. Vous allez entendre l'extrait d'un reportage réalisé par Morgane Bréfort. Elle était partie sur l'île d'Ouessan à la découverte du conservatoire de l'Abeille Noire, Ouessan, Bretagne.
C'est une association loi 1901 qui conserve la génétique de l'Abeille Noire.
Et depuis quand existe cette association ?
Depuis 90, les années 1990, et l'abeille noire est arrivée à Ouessan dans les années 80.
Alors expliquez-nous un peu cette espèce, l'abeille noire, quelle est son histoire?
Alors elle n'est pas endémique de l'île d'Ouessan, elle est endémique de l'Europe de l'Ouest, car à Ouessan il n'y avait pas d'abeilles mellifères. Donc elle est depuis des millions d'années sur l'Europe. Elle a passé notamment les 2 dernières glaciations. Donc tout ce qui est à l'ouest de l'Oural, donc la limite avec l'Asie, jusqu'à la pointe du Finistère. Et tout ce qui est au nord des Pyrénées, jusqu'en Écosse, les îles Britanniques et la Scandinavie.
Alors comment elle est arrivée sur l'île?
Alors elle est arrivée avec un monsieur qui a amené quelques colonies à Ouessan, parce que le varroa, qui est un parasite, était arrivé en Bretagne et en France dans les années 80. Du coup, les apiculteurs perdaient à peu près 70% de leurs colonies et achetaient d'autres abeilles pour faire du miel, parce que leur but, c'était de vendre du miel. Et l'abeille noire s'est trouvée très hybridée. Et un gars, Georges Elkin, qui habitait Ouessan, a eu l'idée de faire venir quelques colonies sur l'île, dans les années 80, avant que le varroa n'arrive dans le Finistère. Et du coup, on a hérité d'une abeille sans varroa à l'époque, et surtout qui était pure au niveau génétique. Et aujourd'hui, c'est la seule île avec l'île de Groix et Belle-Île où on a une abeille noire qui est pure au niveau génétique à quasiment 100%.
Pure au niveau génétique, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elle n'a pas été hybridée avec d'autres races d'abeilles, avec d'autres types d'abeilles. Voilà. Donc, et le but est de conserver cette génétique pour les générations à venir, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir besoin plus tard de retrouver cette génétique pour les scientifiques.
Mais vous disiez que l'abeille noire, c'est la première abeille mellifère à venir sur l'île. Elle cohabite bien avec les autres espèces d'abeilles ?
Les abeilles sauvages et tout ça, oui, il n'y a pas de problème. On a fait des tests et puis il n'y a pas de souci, ça marche bien, oui.
Et donc c'est une abeille qui vit en ruche. Il y a des apiculteurs sur l'île ?
Il y a peu d'apiculteurs sur l'île, mais il y a par contre beaucoup d'apiculteurs du continent qui viennent entretenir le rucher, parce que le rucher est la propriété du conservatoire. Donc il y a 70 ruches actuellement, et on a une vingtaine d'apiculteurs qui viennent régulièrement s'occuper des colonies.
Et le conservatoire, est-ce qu'il est né d'un constat ? C'est pour préserver cette espèce, pour l'aider à mieux vivre ? Est-ce qu'elle est en danger ?
Elle est en danger, oui, très nettement, oui, tout à fait, parce qu'il reste presque plus d'abeilles pures sur le continent, et on risque de perdre cette abeille noire si on ne fait rien, quoi. Ce qui serait dommage, mais elle est en danger, comme les pollinisateurs, sauvages ou pas d'ailleurs, qui sont aussi en perte de vitesse depuis une trentaine d'années. On a perdu à peu près 80% des pollinisateurs sauvages, ce qui est un gros problème pour la culture, pour les fleurs et ainsi de suite, parce que ce sont quand même les abeilles et tous les pollinisateurs qui pollinisent les fleurs. Et ça, c'est indispensable pour la société actuellement.
Mais sur l'île d'Ouessant particulièrement, qu'est-ce qui met en danger l'abeille noire ?
Ben, le danger, c'est que des personnes amènent d'autres abeilles sur l'île. C'est arrivé une fois et que du coup, il y a un mélange et qu'on n'ait plus la pureté de l'abeille noire. Parce que notre but, c'est de garder cette souche de telle façon que, qu'on puisse déjà fournir sur le continent des abeilles noires pure, de telle façon que les apiculteurs qui souhaitent travailler avec l'abeille noire puissent recomposer leur rucher, mais aussi servir de modèle et de référence pour les scientifiques, de telle façon que quand ils font des analyses, ils aient un repère, un modèle qui soit pur techniquement.
Donc concrètement, vous mettez en place, vous faites des reproductions d'abeilles noires ou vous laissez les ruches elles-mêmes se reproduire ? Comment vous faites ?
En général, on laisse les ruches se reproduire elles-mêmes, les colonies se reproduire elles-mêmes. Il arrive qu'on fasse un peu d'élevage, mais très peu, oui. C'est pas notre but premier, n'est pas de faire d'élevage, quoi.
Au niveau de l'île, qu'est-ce que vous mettez en place pour améliorer la longévité de l'abeille noire ? Vous plantez peut-être des fleurs qui pourraient...
Non, il y a assez de végétation sur l'île. On ne touche pas à la végétation, on essaie de garder l'aspect classique de la végétation. Et ça suffit amplement pour le moment. Et puis on ne veut pas avoir non plus trop d'abeilles. Donc pour le moment, là-dessus, on est assez harmonieux et c'est équilibré. On travaille plus sur la pollinisation, en général, pour sensibiliser les gens, parce qu'on est dans une île où il y a 100 000... visiteurs qui passent tous les ans, et on s'est dit ce serait bien qu'on puisse aussi sensibiliser ces gens sur l'abeille noire en général et les abeilles de manière plus globale. Donc on a une exposition actuellement au phare du Stiff qui regroupe 50 photos d'un mètre sur un mètre 50 sur les abeilles dans le monde par exemple. On travaille aussi sur un projet d'une maison de l'abeille et des pollinisateurs, de telle façon de sensibiliser toutes les personnes sur ces questions-là.
L'exposition évoquée dans le reportage, elle s'intitule « Les abeilles du bout du monde », des photographies signées Éric Tourneret, toujours à voir jusqu'à l'automne au phare du Stiff, donc sur l'île d'Ouessant. Dernier voyage, on quitte le Finistère pour les Côtes d'Armor et on rejoint Radio Cresbraise RKB qui est installée entre Rostrenin et Guingamp. Fin avril, la journaliste Morgane Large rencontrait Célia Isoir. C'est l'autrice d'un ouvrage, « La ruée minière au XXIe siècle », un sujet qui nous concerne ici en Bretagne. On pense notamment à la mine d'andalousite du côté de Glomel qui va peut-être se développer dans les années à venir. Ça et puis du lithium qui a été découvert dans la région et qui intéresse à la fois le gouvernement, des ingénieurs et des industriels.
Dans ce livre, Célia Isoir, La ruée minière au XXIe siècle, vous dites qu'il y a deux tiers des mines qui fonctionnent aujourd'hui dans le monde, dans des espaces où il y a des tensions importantes sur l'eau. Et que peut-être que la solution, ce serait... Alors, vous avez une formule assez jolie, c'est de cueillir les fruits qui sont les plus accessibles. C'est ça ?
La formule n'est pas de moi, elle est de Andreas Malm, qui est donc un essayiste qui est connu pour avoir écrit « Comment saboter un pipeline ?» Et en fait, lui, il s'intéresse à la à la lutte contre le changement climatique. Et ils défendent en comment saboter un pipeline l'idée qu'il faut évidemment d'abord cibler les émissions carbone les plus scandaleuses et qui sont liées à l'accumulation de richesses privées. Donc, par exemple, les émissions qui sont liées au mode de vie des ultra-riches, les yachts, les jets privés, les énormes voitures. Et il dit, lui, c'est traduit parce qu'il est allemand, ce sont les fruits les plus bas, les plus mûrs et les plus faciles à cueillir pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, je m'en inspire pour dire, oui, il y a des émissions de luxe qu'il faut arrêter tout de suite et c'est facile. Parce que c'est consensuel, on est presque tous d'accord là-dessus, en nombre. Et il y a aussi des extractions de luxe qu'il faut arrêter tout de suite, et sur lesquelles on peut facilement tomber d'accord. C'est-à-dire tout ce qui, d'un point de vue social, est clairement pas du côté de l'intérêt général, visiblement. Et le fait que les voitures, maintenant, pèsent presque 2 tonnes ou plus de 2 tonnes parfois, c'est un scandale absolu, puisqu'évidemment, dans ces voitures, il faut mettre des batteries gigantesques qui contiennent des quantités de métaux colossales. Et que ça, il faut l'arrêter tout de suite. Ça ne demande pas de faire une révolution mondiale, d'interdire les véhicules de plus de 1,5 tonne et puis peut-être quelques années plus tard, 1 tonne. Ça divise vraiment la production minière pour certaines substances. Donc il faut faire ça.
Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, l'arbre. Là, on voit bien que la transition écologique ne s'approche absolument pas de cet arbre qui aurait des fruits qui sont mûrs et très faciles à cueillir.
Ah non, évidemment, parce que la redéfinition de la lutte contre le changement climatique par les dirigeants et les grandes institutions, c'est une transition qui maintient la croissance, qui ne sacrifie aucune forme de production, qui ne s'interroge absolument pas sur le bénéfice collectif de cette production. Donc, il y a plusieurs exemples assez extrêmes de ça. Pour la France, c'est bien de s'interroger sur la production d'Airbus, parce que là, on a une consommation de métaux qui est colossale pour produire des avions, qui donc posent un problème pour le climat. Et donc, la société Airbus a pour vocation d'exporter le plus d'avions possible, de produire le plus d'avions possible. 700 avions par an, production actuelle, ça représente des centaines de milliers de tonnes de métaux. Donc, ça a un impact direct sur l'activité minière. Évidemment, ça c'est un fruit assez mûr. Ouais. Ça devrait faire consensus pour peu qu'on puisse programmer les fermetures, le démantèlement de ce genre d'industrie et penser sérieusement, prendre à bras-le-corps la question des emplois. Autre fruit qui devrait apparaître comme étant mûr et bon à cueillir, c'est l'intelligence artificielle et en fait le développement du numérique. Alors ça, c'est pour l'instant complètement invisible. Mais le travail qui est à mener, c'est de montrer que, en fait, ChatGPT et les systèmes de recherche comme ceux-là, en fait, ça représente des émissions carbone et ça représente un usage de métaux qui est très 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 conséquent. À la fois à cause de la production des puces électroniques, des serveurs et des quantités de métal qu'on va mettre dans les data centers où on va stocker les données. Plus on a des systèmes sophistiqués d'intelligence artificielle qui nécessitent d'interroger des immenses masses de données, plus on a des serveurs, plus on a des data centers, etc. Mais il y a aussi le fait que cette production électronique et ces data centers demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et les GAFAM, les producteurs du numérique, qui utilisent aussi tous ces data centers, ils ont besoin de produire une image acceptable, donc une image verte. Amazon, Google, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils monopolisent les énergies renouvelables pour refroidir les data centers, pour alimenter les data centers qui vont par exemple permettre de faire des recherches sur ChatGPT. Donc Amazon aujourd'hui est devenu le premier acheteur au monde d'électricité renouvelable pour ses data centers. Donc en fait, on va extraire du lithium, on va extraire du cobalt, du néodyme pour les éoliennes, de l'argent pour les panneaux photovoltaïques. Et tout ça, en fin de compte, ça va servir à refroidir et à alimenter des data centers qui contiennent en majeure partie de la publicité, des données pornographiques et tout un tas de données qui sont utiles à la production d'argent, mais qui ne sont absolument pas utiles du point de vue de la vie collective et même de l'emploi en fait.
On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Célia Izoard.
Merci beaucoup.
Me ramènera sur terre, bientôt le futur me ramènera sur terre, bientôt le futur me ramènera sur terre, bientôt le futur me ramènera sur terre, bientôt la fusée, bientôt la fusée, bientôt le futur me ramènera sur terre, le futur, le futur, le futur, le futur, le futur, la fusée, 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 le futur, la fusée. 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 Le futur, la fusée.
Cyril Cyril sur Canal B avec le morceau « Le futur, ça marche pas ». C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical, et à retrouver sur l'album du même nom. Vous en avez déjà entendu un extrait cette semaine, puisque j'aime beaucoup Cyril Cyril. L'album, il est sorti le 26 avril dernier sur le label rennais Born Bad Records, un 11 titres qui forme le troisième disque pour ce duo qui est suisse. Vous venez de l'entendre dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B qui se termine, c'est une tradition, avec la recommandation du jour.